En ce troisième dimanche de l'Avent, effectivement, on pourrait parler des fleurs qui sont réapparues sur l'autel, du rose qui est moins triste que le violet. Bon, mais ça ne va pas très loin tout ça. Je suppose que quand vous venez à la messe le dimanche, c'est pour avoir un aliment substantiel pour votre âme. Et donc il nous faut réfléchir un petit peu plus. Quelquefois, il faut fermer les yeux aussi. Non pas pour ne pas voir la vérité, mais pour mieux méditer. On ouvre bien grand les yeux, on lit l'évangile ou une phrase de l'imitation de Jésus-Christ ou bien une phrase qu'a prononcée un saint. Il y en a tellement, vous savez, des réflexions très édifiantes des saints personnages qui sont passés sur la terre. Et puis on ferme les yeux et on médite un petit peu, on réfléchit là-dessus. Alors, vous voyez, aujourd'hui c'est dimanche. Eh bien, jour de repos, certes, mais on peut très bien consacrer un petit peu plus de temps que celui de la messe à se souvenir de l'Évangile, entre autres. Et dans cet Évangile, on nous parle de Saint Jean-Baptiste, donc, qui va être interrogé par des émissaires du Sanhédrin. Saint Jean-Baptiste avait auprès du peuple une grande estime, grande considération. Ce n'était pas un personnage quelconque, un personnage hypocrite. Il vivait dans la pénitence, il vivait dans la prière, il vivait dans la vérité, dans la justice. On ne pouvait pas lui reprocher, dire « Tiens, oui, celui-là, il prêche bien, mais alors je l'ai vu l'autre jour complètement ivre. » Ah non, personne ne pouvait l'avoir surpris à blasphémer, à dire des grossièretés, à se mettre en colère contre son voisin sans proportion, sans raison légitime, non. Donc, le peuple, si les dirigeants, comme c'est le cas à l'époque de Saint Jean-Baptiste, sont des hypocrites et de mauvaise foi, sépulcre blanchi, comme on nous dit, le peuple, non, le peuple suit Saint Jean-Baptiste, car il sent qu'il y a derrière tout ça la vérité. Que les membres du Sanhédrin aillent s'informer auprès de Saint Jean-Baptiste est tout à fait compréhensible et légitime. Car nous sommes à l'époque de la venue du Messie. Ça a été annoncé par, évidemment, le bon Dieu à Adam, les prophètes, que de prophéties dans l'Ancien Testament concernant le Messie. Et puis, il y a toujours cette question du prophète Daniel avec les 70 semaines. Donc, même le peuple est au courant que ce sont les temps de la venue du Messie. Mais a fortiori, les grandes têtes de Jérusalem, donc ceux qui siègent au Sanhédrin, sont parfaitement informés de cette chose-là. Alors, les grands prêtres vont envoyer des émissaires. Ces émissaires seront des pharisiens. Pourquoi ? Parce que majoritairement, le Sanhédrin est composé, ce n'est pas exclusivement, mais majoritairement, ce sont des pharisiens. Et vous savez, les pharisiens ont quand même des défauts criants à cette époque. Mais c'est normal qu'ils viennent, parce qu'il y a eu déjà plusieurs messies qui se sont prétendus messies. Donc, le Sanhédrin, c'est l'ordre, c'est la discipline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va les voir. Ils ont envoyé des émissaires, et puis évidemment, ils se sont rendus compte tout de suite que peut-être c'était un beau parleur, un tel ou un tel, mais que ça ne correspondait pas du tout au Messie. Mais ce qui est embêtant, si vous voulez, avec les pharisiens, c'est que, véritablement, ils n'ont pas le souci de découvrir le Messie pour suivre le Messie. Alors, ils ont dans la tête de faire la chasse, finalement, au Messie. Parce que le Messie les dérange. Ils l'attendent. La nation juive l'attend depuis 4000 ans. Et en même temps, ça dérange leurs petites affaires. Parce que la prédication de Saint Jean-Baptiste ne va pas dans leur sens. Saint Jean-Baptiste parle de conversion. Il parle de vie intérieure, il parle de justice, de vérité. Alors, évidemment, les autres, si Saint Jean-Baptiste ne s'était contenté que de parler d'obéissance au grand prêtre, obéissance au grand prêtre, payer le dû au temple de Jérusalem, soutenir le temple de Jérusalem, quoi qu'il fasse d'ailleurs. Bon, ben, là, il aurait été content, si vous voulez. Mais le message de Saint Jean-Baptiste les gênait. Et donc, quand ils vont venir questionner Saint Jean-Baptiste, ils vont tout de suite être, mielleux d'une certaine façon, mais quand même agressifs. Ils ne vont pas mettre les formes, parce que, en principe, ils ne savent pas. Donc, quand on n'a pas de certitude, on se présente devant quelqu'un, mais on se présente très poliment, avec la réserve qui convient. Hein. Qui es-tu ? Voilà, le but en blanc. Et Saint Jean-Baptiste, au fond, sait ce qu'ils attendent. Il n'est pas dupe. Et il aurait pu leur répondre, « Vous voulez savoir qui je suis ? Vous êtes ignorant à ce point-là. C'est moi, Jean-Baptiste. » Il ne va pas leur répondre comme ça. Il va donner la réponse qu'eux attendent. Et pourtant, ils ne l'ont pas formulé de telle façon. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. Bon. Ensuite, si tu n'es pas le Messie, Élie. Moi, c'est qu'il qu'Élie vienne dans la partie, là. Qu'est-ce que ça fait là ? Ah. Si vous vous reportez au prophète Malachie, il est annoncé que quand le Messie viendrait, évidemment pour nous, quand il viendra à la fin du monde, il y aura une réapparition d'Élie. Vous avez entendu parler de ça. Enoch et Élie. Où sont-ils actuellement ? Bon, Dieu les a bien cachés. Mais enfin, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants, quelque part. Et donc, ils viendront à l'époque de l'Antéchrist et d'ailleurs prêcheront la vérité de Jésus-Christ et seront mis à mort sous l'Antéchrist. Donc, les Juifs savent bien, et prophétie, donc c'est peut-être Élie. Et donc, je me dis non, je ne suis pas Élie. Mais alors, t'es un prophète. Non, je ne suis pas un prophète. Et alors pourquoi baptises-tu ? Et Saint Jean-Baptiste va citer le prophète Isaïe. Et donc annoncer pourquoi son baptême n'est pas le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Saint Jean-Baptiste est un baptême de pénitence, de conversion, si vous voulez. Mais ce n'est pas le baptême sacramentel qui va effacer le péché originel ou qui va donner la grâce sanctifiante. Donc tous ceux qui étaient baptisés à Béthanie dans le Jourdain. Alors, un petit mot sur Béthanie, parce que certains Je dirais, mais je ne comprends pas. Béthanie, oui, ben, il y avait deux Béthanie. Il y avait une ville de Béthanie où se rendait fréquemment notre Seigneur, toute proche de Jérusalem, et une autre petite ville de Béthanie sur les bords du Jourdain, par où étaient passés les Israélites quand ils ont découvert la terre promise. Voilà. Donc c'était l'entrée dans la terre promise. Pourquoi justement Saint Jean-Baptiste faisait ses baptêmes à Béthanie? Eh bien, comme pour introduire les Juifs par son baptême de pénitence à la terre promise, c'est-à-dire une autre vie, hein, celle de l'union à notre Seigneur, la découverte de notre Seigneur et la vie surnaturelle avec notre Seigneur. Et donc, Saint Jean-Baptiste va exprimer pourquoi il agit, pourquoi il fait ces choses auprès du peuple, hein, pour préparer les voies du Seigneur. Il n'est pas le Christ, mais il est le précurseur. Il est celui qui vient avant, qui ouvre la voie, qui annonce, attention, préparez-vous. Et de fait, un certain nombre de Juifs vont être préparés, comme on prépare des gens au baptême. Bon, les petits-enfants, on n'a pas besoin de les préparer, mais les adolescents, les adolescentes, les adultes, sont des catéchumènes qu'on appelle. On passe un certain temps à leur enseigner les vérités de la religion pour leur administrer le Saint-Baptême. Eh bien, Saint Jean-Baptiste préparait les Juifs, donc qui étaient de bonne volonté, qui venaient l'écouter, à suivre Jésus. Mais dans toutes ces prédications, on voit que Saint Jean-Baptiste s'efface toujours. Il y a en lui une vertu qui illumine toute sa personne, c'est l'humilité. Parce qu'il aurait pu, se mettre un petit peu en valeur. Hein. C'est humain, ça. On connaît ça. Mais c'est un homme de Dieu. Une âme choisie par le bon Dieu. Et il s'efface. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de sa chaussure, couronne de sa chaussure, comme il disait à l'époque. Si on nous disait, si on nous demandait à nous, qui es-tu? Que vaux-tu? Bon, d'abord, on serait peut-être offusqué, offensé, quand on nous pose une telle question. Hein. Et puis ensuite, ma foi, qu'est-ce qu'on répondrait? Ben, on essaierait de... Enfin, je ne sais pas, moi, on ne dirait pas, je suis le dernier des derniers, hein. Je suis le dernier de la classe. Je suis le plus bête qui soit, la plus moche qui soit. Ah non, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui auraient cette idée-là. Hein. Alors, si on a un petit peu d'intelligence, on fait un petit peu le milieu quand même, on n'irait pas se présenter comme le prince charmant. Ou, voilà. Enfin, c'est moi, quand même, hein, quand même. Saint Jean-Baptiste nous apprend autre chose. S'effacer. Et au fond, c'est la vérité. Car si on y regarde de près, que sommes-nous sinon des pécheurs? Des pauvres pécheurs qui avons besoin continuellement de la miséricorde du bon Dieu, de l'indulgence du bon Dieu, parce que nous retombons trop souvent dans les mêmes fautes, dans les mêmes travers. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 40 ans peut-être que vous n'arrivez pas à vous décrocher la bouteille de whisky, ou bien des bavardages inutiles avec la voisine, avec la belle-sœur, ou je ne sais pas quoi. Alors vous essayez, mais... Alors oui, nous sommes bien misérables. Et ce n'est pas dire des sottises, que de dire que nous avons besoin, nous sommes pauvres spirituellement et nous avons besoin de la miséricorde du bon Dieu. Alors, en ce dimanche, demandons à Saint Jean-Baptiste, eh bien, qu'il nous aide à bien nous préparer pour cette fête de Noël, parce que, vous voyez, dans une semaine, on sera seulement à quelques jours de la fête de Noël. Alors, si pour l'instant, la préparation a été lointaine, on va dire éloignée, peut-être que vous avez pensé déjà aux cadeaux que vous allez faire à Noël. Les cadeaux sont peut-être achetés. Pas jetés, achetés. Oui. Bon. Et alors, d'accord. Les cadeaux de Noël, c'est une affaire. Le repas de Noël, vous avez peut-être commandé du sanglier ou je ne sais pas quoi, ou du kangourou. Oh. Extraordinaire. Hein. Bon. Alors, faudrait peut-être penser quand même à ce que vous allez offrir au bon Dieu. Parce que c'est lui qu'on célèbre à Noël. C'est pas nous. C'est le Seigneur. Et faire un effort spirituel. Peut-être mieux préparer votre confession de Noël. Méditer davantage. Il y avait des saints, bon, je ne dis pas que c'est un exemple à suivre, mais enfin, vous savez, des fois, c'est comme ça, c'est la vie, il y a la presse pour les confessions, et ben, si je ne me confesse pas aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, puis après, on se faufile, il y a une place. J'ai pas le temps de me préparer. Des fois, vous nous dites ça, je ne fais pas le reproche, mais oh, mon père, j'arrive là, mais vous savez, je n'ai pas le temps de me préparer. Mais j'ai vu que vous étiez disponible, alors enfin, bon, c'est mieux que rien. Mais enfin, il y avait des saints qui restaient quelquefois des heures et des heures, 7-8 heures, en préparation pour leur confession. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des personnes scrupuleuses ou un petit peu malades, mais là, je ne vous parle pas de ce genre de personnes, je parle de saints. Pour s'exciter davantage à la contrition, aux fermes propos, dire « je ne vais pas entrer dans un confessionnal » comme on rentre dans une boutique pour acheter un paquet de chewing-gum quand même, pour recevoir une absolution, comme ça, sans trop réfléchir. Bon. Alors peut-être que ce beau cadeau de Noël que vous pourriez offrir à notre Seigneur, eh bien, ce serait une confession mieux préparée, un meilleur examen de conscience, et puis un propos plus ferme, d'éviter tel ou tel travers que vous pouvez avoir. Invoquons Notre-Dame, notre bonne mère, qui aussi a un grand rôle à jouer dans cette préparation spirituelle pour la fête de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.